Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niungeko.
Nous sommes le samedi 23 juillet 2022. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à l'écoute du journal en français sur la radio Nzamba Agathe Kakawe. D'abord, le titre de ce journal. Il a promis de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Évariste Ndayishimiye, nouveau président de la communauté est-africaine, s'est engagé hier à contribuer à la stabilité de la République démocratique du Congo. Pour lui, c'est la condition pour que la sous-région recouvre la paix et la stabilité. En retard de paiement de 4 mois de salaire fait grincer des dents. Cela se passe chez les ouvriers qui érigent le futur centre régional de formation à Karoussi. Ils réclament leur dû. Et dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi, il sera question de la réforme de la politique agricole au Burundi. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
La sécurité à l'est de la République démocratique du Congo est l'une des priorités du nouveau président de la communauté de l'Afrique de l'Est durant son mandat d'une année. Évariste Ndayishimiye a succédé au président kényan Uhuru Kenyatta hier vendredi lors du 22e sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine à Arusha en Tanzanie. Selon le numéro 1 burundais, si la sécurité est rétablie en République démocratique du Congo, la sous-région sera stable. On écoute le président Évariste Ndayishimiye.
Pour créer un environnement commercial stable et améliorer la vie des États de l'Afrique de l'Est, nous continuerons à renforcer la paix régionale, la sécurité, la responsabilité politique, la bonne gouvernance et à institutionnaliser les mécanismes d'intervention d'urgence de l'East African Community. En ce qui concerne la paix et la sécurité, nous veillerons à ce que la République démocratique du Congo se rétablisse et fasse un long chemin vers la stabilité et le développement, y compris la mise en œuvre des décisions prises lors des récents conclaves de Nairobi.
C'était un extrait du discours du président Évariste Ndayishimiye hier lors du 22e sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Parlons encore de l'East African Community, la communauté est-africaine. Les leaders de cette communauté devraient s'investir pour mettre fin définitivement au conflit politique entre certains États membres de la communauté. Sinon, les résultats de l'intégration resteront mitigés. Analyse de Faustin Dikoumana, expert en économie et directeur exécutif de l'organisation locale PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Pour lui, les peuples des pays de la communauté est-africaine vont continuer à subir le coût économique lié à la perturbation du commerce transfrontalier suite au conflit sécuritaire. Suivez-le.
Quand des nations, des pays se regroupent au sein d'une organisation d'intégration régionale, c'est pour qu'il y ait des retombées positives, c'est pour qu'il y ait une valeur ajoutée au niveau de l'échange, de la circulation des biens et services, pour que la lutte contre la pauvreté soit effective. Mais malheureusement, on constate que pour l'East African Community, dans l'OTAN, c'était vraiment une organisation dont l'intégration était avancée, était même exemplaire ici en Afrique. Mais on voit qu'elle est en train de faire pas de tortille, elle est en train maintenant de faire des crescendo parce que des conflits internes continuent à miner les relations entre les pays voisins, certains pays voisins membres de la communauté, ce qui vraiment entrave gravement la circulation des biens des personnes. Deuxièmement, un pays masse comme la RDC qui entre dans une organisation aurait dû voir une opportunité énorme pour que les pays voient vraiment que les opportunités sont là pour des exploitations beaucoup plus immenses. Voilà, la RDC entre, mais ce sont les conflits qui continuent, qui s'ajoutent, ce sont des problèmes, ce sont des conflits internes qui paralysent, qui ankylosent l'élan des réformes pour avancer l'intégration. Troisièmement, justement, on voit que les populations supportent un coût énorme lié à la perturbation du commerce transfrontalier entre certains pays voisins, membres de la communauté. Normalement, l'intégration régionale, le commerce transfrontalier, c'est un commerce très très important et pour pour l'échange commercial et pour les avantages, pour que chaque pays, chaque population bénéficie des avantages comparativement aux autres les avantages et plutôt aux potentialités dont disposent d'autres pays et membres de la communauté. Mais actuellement, au lieu que c'est une marchandise et produit à moindre coût ici, au lieu de qu'elle soit disponible sur le marché, par exemple, au Burundi, maintenant c'est difficile, mais actuellement, on voit que c'est un problème. C'est une situation qui donne du fil à retordre aux populations avoisinant les frontières des pays voisins, membres de l'East African Community.
Faustin Dikoumana, il est directeur exécutif de la Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Dans un instant, la suite de l'actualité sur la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Inzamba.
Grogne chez les vendeurs des fournitures scolaires en mairie de Bujumbura. En cause, la société Papers Converter Burundi, Pacobu, qui a le monopole de fabrication des cahiers, tarde à les rendre disponibles, alors que ses commerçants ont déjà payé à l'avance et à des prix exorbitants les points de vente de ces fournitures. Ces commerçants réclament une solution à ce problème et détaillent avec Alice Akiman.
Les lamentations de ces commerçants sont fondées sur le fait qu'ils n'ont pas encore eu le matériel scolaire à vendre, alors qu'ils ne disposent que d'une période de 2 mois seulement. Ils disent qu'ils ont payé à l'avance les points de vente et que la mairie ne leur autorise pas de vendre son matériel quand la rentrée scolaire a déjà débuté.
Au mois de juillet et d'août, nous payons de l'argent à la mairie. Nous payons soit 300 000, 400 000 ou même 500 000 pour avoir un point de vente. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes en retard par rapport à la vente des cahiers. Nous risquons de travailler à perte, car quand les écoles ouvrent les portes, le maire de la ville ne permet pas que nous continuions à vendre le matériel. Nous constatons que c'est une grande perte.
Il demande à l'entreprise Pacobu, qui détient à elle seule le monopole de vente de son matériel, de résoudre le problème. Sinon, ils vont travailler à perte.
Le temps file. Un mois va bientôt s'écouler, alors que nous disposons d'un délai de 2 mois seulement. Vous constatez vous-même que c'est une perte. Nous demandons que l'entreprise Pacobu nous donne ses cahiers.
La rédaction de la radio Inzamba n'a pas pu joindre par téléphone le directeur de l'entreprise Pacobu pour qu'il s'exprime là-dessus.
Autre lieu, autre grogne, à Karouzi, on parle des ouvriers mécontents à cause de 4 mois d'arriéré de salaire. Ces ouvriers sont en train de construire des bâtiments qui vont abriter le centre régional de formation technique et professionnelle en province Karouzi. Ils réclament la régularisation de leur salaire afin de subvenir à leurs besoins. Le point avec Pierre Gahungu.
Ces travailleurs sont constitués des maçons et des aides-maçons opérant sur le chantier du bâtiment abritant le centre de Roussi qui va accueillir des jeunes chômeurs du Burundi. Les travailleurs disent mener une vie misérable alors qu'ils devraient avoir leur dû. Des sources à Roussi disent qu'ils réclament 4 mois d'arriéré. Selon ces mêmes sources, les travailleurs n'ont pas encore reçu leur salaire depuis le mois de mars. Certains parmi eux affirment mener une vie difficile auprès de leurs familles respectives alors qu'ils se sont présentés régulièrement au travail depuis tous ces mois. L'Office burundais pour l'habitat, Obura, emploie plus de 300 travailleurs au centre de Roussi, selon des sources administratives. Jeudi de cette semaine, certains d'entre eux ne se sont pas présentés au travail pour contraindre l'employeur à leur payer les arriérés. Ils dénoncent une mauvaise pratique, selon laquelle ils n'ont pas été reçus pour débattre sur la question. Le gouverneur de Karoussi, Kalini Mbarushimana, accompagné de certaines autorités, dont des agents de l'inspection générale de l'État, y ont effectué une descente sur le site pour tenter de vider la question. Des informations qui nous sont parvenues de la part de l'inspection générale de l'État disent que les premiers salaires parviendront aux concernés à partir de mardi de la semaine prochaine.
Et comme chaque samedi, nous vous proposons nos mini-magazines au cœur de la société. Aujourd'hui, il est centré sur la production agricole au Burundi. Il est signé Émile Nibasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Même s'il ne donne pas de chiffres, le gouvernement burundais déclare que la récolte a été bonne cette année. Les analystes économiques, eux, parlent de discours politiques. Nous avons également parlé aux agriculteurs. Bienvenue dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 23 juillet 2022. Vous êtes avec Emile Niwasumba. C'était le 15 juillet, il y a une semaine, le porte-parole du président de la République dressait le bilan de 2 ans de pouvoir d'Evariste Ndayishimiye. Le bilan dressé par Alain Diomède Nzeimana concernait aussi le secteur de l'agriculture.
Par exemple, on a produit une grande quantité de maïs. Les Burundais ont fait des ventes à un prix élevé parce qu'auparavant, les commerçants leur donnaient peu d'argent. Le président de la République demande aux agriculteurs de ne pas être gourmands et de conserver une partie de la production pour s'en servir plus tard.
Les agriculteurs, eux, parlent de mauvais rendements par rapport aux précédentes récoltes. Ils étaient au micro de nos confrères de la télévision Renaissance.
L'année dernière, on pouvait avoir 5 tonnes et plus. Cette année, on n'a même pas pu avoir une seule tonne. Tout cela à cause du manque de l'engrais. On nous a donné l'engrais tardivement. Nous n'avons pas pu cultiver à temps. Donc, la perte a été vraiment très énorme pour nous, les cultivateurs.
Nous avons eu une faible récolte par rapport aux années antérieures, surtout par rapport à l'année passée. La raison a été que la société FOMI nous a donné l'engrais très tardivement, alors que nous l'avions payé à l'avance. L'année passée, j'avais eu 800 kilos de maïs, mais pour cette saison de culture, j'ai eu seulement 400 kilos. Les haricots, c'est une culture qu'on aime cultiver pour cette saison de culture qui tend vers l'été. Donc, j'avais eu l'année passée 1200 kilos, mais pour le moment, je n'ai eu que 500 kilos de haricots.
La saison culturelle n'a pas été bonne cette année. D'ailleurs, je dirais qu'elle a été très mauvaise pour une raison. À un certain moment, nous avons payé la moitié du coût de l'engrais. Le reste est payé quand on reçoit la commande normalement au début de la saison culturelle. Mais cette année, l'État ne nous a pas donné de l'engrais dans les délais. La distribution de l'engrais n'a pas aussi été faite en temps et chacun ne pouvait pas avoir la totalité de sa commande. C'était par tranche. La saison a commencé alors que nos champs de maïs et de haricots avaient encore besoin de la pluie. Ça nous a causé une perte énorme.
Pour Faustin Ndikumana, dire que la récolte a été abondante, c'est un slogan politique. L'analyste en économie dit se référer aux statistiques de la Banque centrale.
Il faut taper sur les statistiques, l'évaluation des besoins dans tous les types d'arrêts alimentaires, les besoins en quantité tenant compte de la consommation journalière en calories suffisantes, et puis... On évalue annuellement la consommation annuelle, on évalue la production annuelle en tonnes, en quantité, sur les quantités qui parlent. Mais on ne fait pas parler dans le flou que la production est suffisante. Deuxièmement, les statistiques de la BRB ont toujours prouvé qu'on a un déficit de production alimentaire de 30% environ. Nous sommes exportateurs nets de produits alimentaires. Troisièmement, la situation de l'inflation actuelle, elle est alimentée par les prix des produits alimentaires. C'est le produit alimentaire qui a une inflation de plus de 2 chiffres, qui alimente l'inflation globale. Alors, comment peut-on dire que la production est abondante alors que l'inflation va toujours crescendo? Quatrièmement, la situation de la faim. Même les statistiques récentes de la BRB ont prouvé qu'au moins 40% des Burundais peuvent passer une journée sans manger. 76% de la population déclare avoir des préoccupations au niveau de la capacité d'avoir une alimentation journalière suffisante. Le taux de malnutrition infantile est de 50%.
Interrogé par nos confrères de la radio Inzamba, Faustin Ndikumana propose entre autres la résolution du problème des terres et la professionnalisation des acteurs agricoles.
Il faut trouver la solution à la situation des terres actuellement. 30% des plus de terres des familles n'ont pas de terres cultivables. Il y a maintenant, suite à la conséquence démographique, on t'avère moins de 0,5 hectare par famille. Donc, il y a une mauvaise gestion parce que ces terres même sont accaparées par, sont des traités de manière, sont accaparées par les hautes dignités. Il y a la professionnalisation des acteurs agricoles, l'encadrement. Maintenant, il y a la vulgarisation, l'encadrement à la base est très très insuffisant. Il n'y a pas de suivi suffisant à la base. Les produits phytosanitaires, la recherche pour accompagner la production quand il y a une épidémie qui ravage les plantes ou les animaux, vous voyez, on prend beaucoup de temps pour y répondre. Et il y a l'insuffisance d'engrais, on est à utilisation de l'engrais par hectare, il y a même le circuit et de disponibilité d'approvisionnement d'engrais qui est souvent perturbé, il y a l'irrigation insuffisante en période de sécheresse. Il faut même voir en évaluant ces quantités statistiques établi sur le facteur qui va alimenter la croissance économique au Burundi pour améliorer les revenus des pays, des citoyens. Et si en agriculture, il y a une baisse au niveau de la production, ici, là, on peut importer, même ces petits pays comme l'île Maurice ou Singapour, on peut produire en agriculture, mais les services peuvent remplacer pour permettre à ce que la situation des conditions de vie puisse être améliorée.
Selon la Banque africaine de développement, l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Burundi est alarmant. Le Burundi occupait la 20e place dans l'indice de la faim dans le monde en 2021. La Banque mondiale, elle, précise que près de 2 Burundais sur 3 ne parviennent pas à satisfaire quotidiennement leurs besoins alimentaires de base. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 23 juillet 2022. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Emi Deniba Sumba. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Place à la revue de la presse. Elle est présentée par Eddy Claude Ninenazwe.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Commençons cette revue de presse par le groupe de presse Iwachu qui parle de l'élection du chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye à la présidence de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. C'était ce vendredi 22 juillet à Arusha lors d'un sommet des chefs d'État membres. Dans son discours après son élection, le président burundais a promis de travailler pour l'amélioration du niveau de vie des populations de la communauté à travers une compétitivité accrue, la croissance de la production, le commerce et la promotion des investissements. Pendant son mandat, il a souhaité que la langue française et le swahili soient utilisées comme langue officielle de la communauté, en plus de l'anglais. En ce qui est de la paix et la sécurité dans la région, le président Ndayishimiye a insisté sur la nécessité de promouvoir la paix et la stabilité à RDC. Il a appelé les États membres à travailler ensemble pour prévenir et gérer les conflits et ainsi assurer un bon voisinage, lit-on dans le journal Iwachu. Présumé putschiste de 2015, possibilité d'une grâce présidentielle, titre le même journal Iwachu. Ce quotidien d'information dit ce vendredi lors de la présentation des réalisations de son ministère pour l'année 2021-2022, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, a invité ces putschistes en cavale au Rwanda à rentrer au Burundi car ils pourraient bénéficier d'une grâce présidentielle. Il a dit, je cite, traduit devant la justice, ils vont pouvoir purger leur peine et on ne sait jamais qu'après quelques années, ils ne pourraient pas bénéficier de certaines décisions comme la grâce présidentielle. Fin de citation. Et d'ajouter que le rapatriement des putschistes, c'est le seul point qui reste en suspens dans le processus de normalisation des relations d'amitié et de coopération entre le Burundi et le Rwanda. Le journal Iwachu revient également sur son ancien journaliste Jean-Louis Guilmana, porté disparu il y a exactement 6 ans. Le journal Iwachu trouve que cet anniversaire arrive dans un contexte assez particulier où la famille de Jean-Louis Guilmana souhaitait organiser une levée de deuil, mais qu'il manque jusqu'à ce jour une attestation de décès, comme si personne ne veut pas assumer sa mort. Cela met tout le monde mal à l'aise. Mais ce vendredi matin, 22 juillet, des journalistes du groupe de presse Iwachu et des collègues venus d'autres médias, tous vêtus en noir et avec des gerbes de fleurs, sont allés rendre un hommage à Jean-Louis Guilmana devant son portrait géant accroché au mur de l'imprimerie dans la cour du groupe de presse Iwachu. Et puis dans le journal SOS Média, on lit que les cas de Covid-19 sont en train d'exploser à Bujumbura. Depuis le début du mois de juillet, en effet, les cas de Covid-19 sont montés en flèche. Des centres de santé ont été pris d'assaut par des personnes présentant des symptômes de maladie et désirant faire un dépistage du virus mortel. Mais plusieurs centres de dépistage ne disposent pas de réactifs selon les sources médicales de SOS Média. Et à l'hôpital de Ruziva, au sud de la ville, l'unique centre de dépistage, le personnel soignant se dit débordé. Souvent, il est obligé de renvoyer les patients vers d'autres structures. Au centre-ville de la capitale économique, des personnes testées positives ne reçoivent pas les médicaments constitués par une combinaison homologuée par les autorités burundaises depuis le début de la pandémie, et cela malgré que le plan national de riposte contre la propagation de la maladie le prévoit. Et pour boucler cette revue de presse, le journal Burundi Echo s'inquiète de la flambée des prix de produits de première nécessité sur le marché. Il note que l'inflation n'est plus à démontrer car ses effets se font déjà sentir. La gamme des produits de première nécessité se rétrécit considérablement et les prix des produits de consommation de base enregistrent une augmentation exponentielle en pleine saison sèche. Les prix des denrées alimentaires enregistrent quant à eux une hausse de 15%. Les ménages se débrouillent pour pouvoir joindre les deux bouts du mois. Ceux qui ont de faibles revenus ou des revenus fixes vivent dans la précarité totale, comme le mentionne le journal Burundi Echo. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Nécrologie pour clore ce journal. Décès ce samedi de Maître Isidore Lusikiri des suites d'une maladie. Cet ancien bâtonnier du Burundi vivait en exil depuis 2015. Il s'est beaucoup impliqué dans la lutte pour la restauration d'un état de droit au Burundi et la cohabitation pacifique entre Burundais. Feu Isidore Lusikiri était président du Morénal au mouvement politique pour le redressement national. Son parcours avec Eddy Claude Nininahazwe.
Isidore Lusikiri, qui vient de quitter son monde, est un juriste et homme politique burundais. Ancien chef de mission diplomatique du Burundi, notamment en Tanzanie, Isidore Lusikiri a été procureur général près la cour d'appel de Bujumbura avant d'entrer dans la carrière d'avocat auprès des cours des tribunaux du Burundi. Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burundi et collaborateur de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avec la crise de 2015 au Burundi, il s'est réfugié au Rwanda. Sa vie politique commence en 1977, quand il était étudiant membre de la jeunesse révolutionnaire du parti Prona Gérère. En 1994, il était membre et fondateur du parti pour le redressement national Parena avec le président Bagaza à l'exil. Il a fondé le mouvement Morena qu'il a présidé jusqu'à ce jour. Maître Isidore Lusikiri, dans sa lutte, souhaitait pour tout Burundais la sécurité physique des personnes et des biens, la sécurité judiciaire qui est basée sur l'indépendance de la magistrature. Maître Isidore Lusikiri quitte cette terre à l'âge de 68 ans.
Voilà, c'est par cette triste nouvelle que nous terminons ce journal. Merci à vous toutes et tous, chers auditrices, auditeurs de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, de nous avoir prêté oreille attentive et pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.